Vous écoutez le Poste National sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV. Il est 20h. Voici le journal, une présentation de Marie-Chantal Noah.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle cimenterie au Cameroun, Simpo Cameroun SA, sera inaugurée ce vendredi à Kribi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Hygiène et salubrité, une opération coup de poing annoncée à Yaoundé. Il s'agira en une semaine chrono de débarrasser la cité capitale de toutes ses ordures. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en appelle à la mobilisation de tous. La saison pluvieuse au Cameroun qui rime souvent avec inondations, effondrements d'immeubles ou éboulements de terrain, avec à la clé de nombreuses victimes, comme hier encore à Lourbessou à Douala. Le dossier du 20h se souvient pour sensibiliser des drames de Ngouaché, de Boya ou de Limbé, tout en déplorant l'entêtement des populations à occuper les zones à risque ou non constructibles. Bienvenue au journal. L'industrie minière en première ligne sur les hautes directives du président de la République, Paul Biya. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, déjà à Kribi, procédera demain vendredi à l'inauguration officielle de la cimenterie Simpo Cameroun SA. La nouvelle unité industrielle est spécialisée dans la production d'une gamme de produits de construction tels que le ciment, le béton prêt à l'emploi, les agrégats et autres mortiers. Laurentine Bokono.
Vent humide. Sur le parcours Edeya Kribi, la nationale numéro 7, 66 km, quatre arrêts mémorables en signe d'ovation jalonnent le voyage du premier ministre chef du gouvernement en route pour la ville balnéaire de Kribi, région du Sud. La chaleur de l'accueil change la couleur du temps qu'il fait. Au-delà de la personne du premier ministre chef du gouvernement, c'est au président de la République, Paul Biya, dont il est l'émissaire, que le département de l'Océan est venu exprimer sa gratitude pour l'ensemble des grandes réalisations au bénéfice de ces populations. Premier arrêt, pont sur l'Oignon, à la lisière de l'Océan et de la Sanaga maritime. Remise du bouquet de fleurs par la sous-section RDPC de Lokoundié, sous la conduite de son président, par ailleurs, maire de cette localité. Militants et groupes de danse sont en transe. Deuxième arrêt, localité de Lokbatindi, mobilisation et ferveur des peuples des Bakoko Bassa pour une ovation populaire. Troisième arrêt, Fifinda, chef-lieu de l'arrondissement de Lokoundié, ovation populaire au rendez-vous. Quatrième arrêt enfin, au lieu dit Ébouillé. Accueil par le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguélé-Nguélé. Honneur militaire. Présentation des corps constitués, très grande ovation populaire sous la conduite du sénateur Mbamba Grégoire. Élite de la région du Sud, en tête desquelles le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Fam Dongo, le ministre Jules Dorin Dongo, les directeurs généraux et autres forces vives prolongent la liste. L'enthousiasme des populations locales impose escale sur escale au premier ministre chef du gouvernement pour communier en toute fraternité. Au bout du parcours, le compteur mentionne 4 heures de route. La ville balnéaire de Kribi a fait la démonstration de son hospitalité légendaire au rythme des Amazones pour faire nager le séjour du premier ministre chef du gouvernement dans l'océan. Comme un poisson dans l'eau. Sans faire la fine bouche, l'océan compte plusieurs projets réalisés et plusieurs autres en cours de réalisation. On peut citer, entre autres, l'autoroute Kribi-Lolabé, la première phase du port en eau profonde de Kribi, l'usine flottante de gaz, la centrale à gaz de Mpologwe. Demain, ce sera le grand jour avec l'inauguration officielle de la cimenterie Simpo au Cameroun, un projet privé porté par une entreprise d'État turc. C'est à coup sûr la concrétisation de la politique d'industrialisation du pays telle que définie par le président de la République. C'est aussi la preuve de l'attractivité de l'économie camerounaise en raison de l'afflux massif des investissements directs étrangers. Kribi, Laurentine Bokono, CRTV.
Ce communiqué du gouvernement monté des propos injurieux contre les institutions de la République et ceux qui les incarnent dans l'espace public. Le Cameroun se veut une démocratie et un état de droit. Nous devons cette évolution majeure de notre pays dans l'espace des libertés, après de longues années de monolithisme, à la volonté et à l'engagement résolu du président de la République, Paul Biya. Aussi, au bout de plusieurs décennies d'expérimentation et de maturation politique, le Cameroun peut aujourd'hui se féliciter des avancées remarquables réalisées dans ce domaine. Le foisonnement des organes de presse, des chaînes de radio et de télévision, la multiplicité des formations politiques qui exercent librement, ainsi que la liberté de ton qui en est l'une des caractéristiques incontestables, témoignent de l'effectivité et de la vitalité de notre démocratie. En d'autres termes, les Camerounais peuvent s'exprimer sans aucune contrainte, approuver ou désapprouver l'action des pouvoirs publics, faire connaître leur point de vue sur l'ensemble des questions ayant trait à la vie de la nation. Pour autant, la liberté dont nous tirons fierté aujourd'hui plus qu'hier ne saurait donner à quiconque la latitude d'attenter aux institutions de la République, ni à l'honorabilité de celles et ceux qui les incarnent, au premier rang desquels le président de la République, Paul Biya, qui a été librement et majoritairement élu par ses concitoyens. C'est pour cela qu'il est inacceptable que des compatriotes, fussent-ils des leaders de partis politiques ou d'opinion, usent de propos irrévérencieux, injurieux, voire offensants à l'égard de celui qui préside légitimement et avec bonheur aux destinées du Cameroun. Le gouvernement de la République désavoue et condamne avec force ces écarts de langage que certains de nos concitoyens se permettent impunément sous le couvert de la démocratie, faisant fi aussi bien de la bienséance que des lois et règlements de la République. Le gouvernement en appelle une fois de plus à la retenue et au sens de responsabilité de tous dans l'exercice du droit légitime à la liberté, qui ne saurait verser dans l'outrance et l'outrage, bafouer nos valeurs sociétales fondamentales ou contrevenir aux normes basiques de la démocratie et de l'état de droit. C'est la substance d'un communiqué signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Nous vous le disions en titre, aménagement de la voirie urbaine, la ville de Yaoundé doit retrouver de sa superbe en une semaine à travers une opération spéciale dénommée Coup de poing qui sera bientôt lancée. C'est du moins le vœu émis ce jeudi par tous les acteurs concernés par les questions de déchets et assimilés, convoqués par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Au cours de cette réunion d'urgence, Mme Célestine Kétia-Cotès a appelé à la mobilisation de tous pour une opération réussie. Emmanuel Bicon, CRTV Centre.
Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain voudrait que le siège des institutions républicaines cesse de donner l'image d'un bidonville à ciel ouvert avec des tas d'immondices qui jonchent les rues et des nids de poules. En présidant ce jeudi dans son cabinet une réunion d'urgence qui a convoqué autour d'une même table les acteurs en charge de la gestion des déchets et assimilés, Célestine Kétia-Cotès, dans son propos liminaire, n'a pas fait abstraction des raisons qui favorisent cet état des choses. Elle a principalement évoqué l'absence de maîtrise d'œuvre et le problème de contrat avec les prestataires. Aussi, souligne-t-elle, en plus du problème évoqué supra, l'une des entreprises fait encore face à des difficultés d'ordre organisationnel et technique et donc ne peut, en l'état actuel des choses, répondre efficacement à la demande. Fort de ce constat, tous les acteurs s'accordent donc d'aller vers une opération coup de poing, une opération qui va permettre à la cité capitale de retrouver de sa superbe en une semaine afin de donner la possibilité aux populations de Yaoundé de passer les fêtes de fin d'année dans un environnement sain et propre. Dans le centre, Emmanuel Bicon, CRTV.
Pour assurer la réussite de cette opération coup de poing, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a donné des orientations aux différents acteurs. Madame Célestine Kétia-Cotès, au micro d'Emmanuel Biconte.
Nous avons fait une descente il y a quelques jours. Partout où nous passions, il y avait des tas d'immondices. Nous avons prescrit la réquisition du matériel existant afin que d'ici à la fin de la semaine prochaine, tout soit fait pour que les rues de Yaoundé soient propres. Nous avons prescrit au maire de ville, une fois que les rues sont propres, de bien vouloir poser des panneaux afin que les populations attendent avec leurs poubelles chez elles. Qu'il y ait un plan de tournée, qu'il y ait une maîtrise d'œuvre et même des équipes, des brigades internes. Et que l'image de la ville soit le fruit des contributions de l'ensemble des populations. Parce qu'il y va de la santé, il y va de la sécurité, il y va de l'image de notre pays.
Madame Célestine Kétia-Cortès, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Et si le 20 mai 2024 nous était compté, la nouvelle sortie du magazine Le Temps des Opportunités s'attelle à la tâche. Le magazine du cabinet civil de la présidence de la République revient sur la participation du couple présidentiel camerounais à la dernière fête de l'unité. Paul et Chantal Biya ont communié avec le peuple aussi bien au boulevard du 20 mai qu'au palais de l'unité. Dieudonné Omba.
Paul et Chantal Biya, arpentant le tapis rouge le 20 mai 2024, alors que de nombreuses mains sont tendues pour arracher le salut du couple présidentiel. L'image de la une, comme celle de la quatrième de couverture, montrant la première dame camerounaise avec la nouvelle Miss Cameroun, donne tout simplement envie de découvrir le contenu du tout nouveau numéro de Le Temps des Opportunités. La nouvelle sortie du TDO fait la part belle à la célébration du 20 mai et à l'abondante activité de l'épouse du chef de l'État. Le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, bâtit déjà son éditorial sur la 52e édition de la Fête de l'Unité. Le titre de l'édito, Ferveur patriotique ravivée pour l'unité nationale, en dit long sur la communion observée entre les Camerounais et le couple présidentiel le 20 mai dernier, apothéose de la célébration. Le ministre Samuel Mvondo Ayolo, qui va rappeler la jeunesse de la célébration, ravive également les souvenirs quant aux couleurs du Cameroun ainsi qu'à sa devise. L'éditorialiste rappelle enfin que l'unité nationale est un acquis à consolider, entre autres en exaltant tout ce qui concourt à la force du Cameroun. Et cette force se verra à travers les images, celle du président Paul Biya à l'arrivée au boulevard du 20 mai, à l'exécution de l'hymne national, à la revue des troupes ou au passage de celles-ci, troupes militaires à pied ou lors du défilé motorisé, sans oublier les groupes civils, jeunes et moins jeunes, membres d'associations politiques ou non, sous le regard du chef de l'État, de la première dame et de nombreuses personnalités. Même communion à la réception au palais de l'Unité, où l'image reflète l'allégresse exprimée devant Paul et Chantal Biya, très détendue. Devant cette ferveur patriotique, le numéro 78 de l'OTAN des opportunités n'a pas oublié un autre événement qui aura marqué le Cameroun et le monde. Le 8 juin 1990, Paul Biya était à la tribune au stade San Siro de Milan en Italie. Motif, ouverture de la 14e édition de la Coupe du Monde de football. Et le Cameroun prit le dessus sur l'Argentine de Diego Armando Maradona. Ça fait 34 ans, mais ça ne fait pas autant d'années qu'existe PRC-TV. À la dernière fête de l'unité, la télé du palais était au cœur de l'événement. Différentes thématiques abordées par des journalistes et analystes chevronnés. La nouvelle sortie du TDO rappelle ces différents axes où le président Paul Biya apparaît comme un acteur clé. À ses côtés, Madame Chantal Biya, dont l'activité aura été débordante ces trois derniers mois. Le deuxième gala de charité organisé par l'Ordre souverain de Malte pour financer la lutte contre les maladies infantiles, la remise des cadeaux aux élèves du complexe Les Coccinelles du Palais de l'Unité, ou alors la présence de la première dame camerounaise à la cérémonie de Miss Cameroun. Une présence constante qui signifie l'attachement de l'épouse du président de la République, non seulement à la beauté, mais également à l'humain et à la culture. Aucune actualité n'aura échappé au nouveau TDO, même pas cette cérémonie de baptême dans la famille présidentielle. Des faits, des gestes, des actes présidentiels aussi. L'OTAN des opportunités d'avril-juin 2024 dénombre 145 actes signés du président Paul Biya. Les 116 pages du magazine pèsent bien de leur poids des mots et des images.
Passées de 14 minutes, vous êtes sur le poste national de la CRTV. Dans le dossier du soir, gros plan sur la saison des pluies et son cortège de sinistres qui endeuille de plus en plus et chaque année de familles. À noter que les causes des catastrophes naturelles sont parfois liées à l'action de l'homme. Dans la région du littoral, par exemple, les zones à risque sont très souvent interdites pour la construction des habitations. Malgré les moyens de sensibilisation et de répression des pouvoirs publics, les populations continuent de vivre dans ces zones déclarées non constructibles. Augustin Guizana.
Les zones inondables, les flancs des collines très escarpées sont souvent au cœur des catastrophes à Douala, la capitale économique du Cameroun. La mort de 3 personnes à la suite d'un déboulement des terrains au quartier Logbessou remet au goût du jour la question de mise en œuvre de la réglementation de l'occupation des zones déclarées non constructibles ou présentant des risques potentiels pour les populations. Sur le banc des accusés, les collectivités territoriales décentralisées qui s'en défendent. Joseph Magloire Olinga, chargé de la planification à la communauté urbaine de Douala.
La communauté urbaine de Douala agit sur 3 principaux leviers. Chaque commune d'arrondissement dispose d'un plan d'occupation des sols dans lesquels sont définies les zones non constructibles.
Comment donc décourager les populations d'occuper ces zones à risque au regard du coût des différents mécanismes à mettre en œuvre?
Il y a les journées d'urbanisme qui sont organisées depuis un certain nombre d'années par la communauté urbaine de Douala pour justement informer, communiquer et sensibiliser les populations sur les dispositions réglementaires à respecter avant d'engager toute construction.
Une synergie d'action des pouvoirs publics, notamment des différents acteurs de la chaîne des bâtiments et travaux publics, s'avère indispensable. Anatole Meng est le délégué régional de l'urbanisme et de l'habitat pour le littoral.
Pour avoir le permis de construire, il y a un certificat d'urbanisme et d'accessibilité.
Les portes des risques des catastrophes s'ouvrent sur le littoral, surtout en ce début des pluies. Douala, Augustin Guizana, CRTV.
Non loin dans le sud-ouest, les experts en urbanisme et en génie civil appellent à l'évacuation des zones exposées aux inondations et glissements de terre, surtout à Boya et à Limbé. Ils déplorent par ailleurs le non-respect des normes en matière de construction. Stéphane Tala.
Si la croissance urbaine s'accélère à Boya, les sites de certaines maisons d'habitation sont problématiques. Émile Coton, expert en urbanisme.
Nous pouvons citer la situation des rigoles et des passages naturels d'eau qui sont bloqués dans la ville de Boya par le fait de constructions anarchiques. Les maisons qui se tiennent au pied de la montagne sont attachées les unes aux autres.
Pour Guy Bertin-Sewa, ingénieur du génie civil, les normes en la matière ne sont pas respectées.
Nous sommes dans une zone sismique. Il faut peut-être un incident pour qu'on en arrive à observer que ces maisons-là sont mal construites.
La ville est exposée naturellement au risque de tremblements de terre, aux éboulements à cause des eaux de ruissellement et aussi aux inondations.
Ailleurs, dans la ville de Limbé, l'on déplore l'érection incessante des maisons dans des zones à risque pourtant définies. Regina Bansi, déléguée départementale du Mindu pour le FACO.
Pour les zones à risque qui sont parfois inondées, nous avons Half Mile, Church Street, Down Beach, Mbonjo, Lomsom, Animus Farm, Cassava Farm et certaines parties de Newtown.
Avec le retour des pluies, le risque de catastrophe naturelle est évident. Il faut donc évacuer ces zones, recommandent les experts qui appellent aussi au civisme des populations. Boya, Stéphane Tala, CRTV.
Souvenir, il y a plus de 4 ans, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019, un glissement de terrain suite aux fortes précipitations faisait 43 morts à Ngouache, dans l'arrondissement de Bafoussam 3. Malgré cette perte considérable en vies humaines, les populations continuent, au mépris des règles d'aménagement urbain, de vivre dans les zones à risque. Poli Wafo.
Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019, sous une pluie torrentielle, la mort frappait aux portes des habitants de Ngouache 4. Ici, 4 ans après, c'est difficile d'oublier.
J'étais là pour retirer mes couscous. Je comprends le cri par ici. On a sorti les autres, on a enlevé la terre quand ils sont déjà étouffés.
La tragédie n'a pour autant pas découragé tous ceux qui bâtissent dans des zones à risque. C'est le cas à Famla 2. Où les habitations sont érigées sur un talus bordé de fossés très profonds. Walter Sabi est en charge de l'aménagement de l'espace à la communauté urbaine de Bafoussam.
Ça, c'est au moins la troisième ou quatrième fois que nous passons dans cette zone.
Dans les quartiers Tungan, village 3, Kamkop 6 et Ngouache 2, les maisons au bord des cours d'eau sont marquées de la croix de Saint-André, signe du danger permanent, pourtant insuffisant pour faire fléchir la résistance.
On a dit de quitter, mais je ne connais pas là où je veux partir avec ma famille.
Déguerpir les familles de ces zones à haut risque, c'est sans doute l'ultime sacrifice, le prix à payer pour éviter le pire. Bafoussam, Poli Wafou, CRTV.
Durant cette saison de pluie, les glissements de terrain deviennent de plus en plus récurrents, mettant ainsi en danger population et environnement. Une union tragique qui a des conséquences dévastatrices pour de nombreuses communautés à travers le pays. Pour y remédier, le gouvernement ne cesse de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour sensibiliser les populations sur les risques de glissements de terrain et mettre en place des mesures d'alerte et d'évacuation en cas de besoin. Christine Victoria Penda.
La saison des pluies au Cameroun, qui s'étend généralement de mai à octobre, apporte des précipitations intenses et prolongées. Ces pluies abondantes peuvent saturer les sols et augmenter considérablement les risques de glissement de terrain. Veux pour preuve, l'éboulement de terrain il y a quelques jours à Douala, dans la région du littoral. Expérience traumatisante dont le gouvernement met tout en œuvre pour l'éviter autant que possible. Stratégie dont les résultats peinent encore à être visibles. Les campagnes et mesures de prévention et d'intervention se multiplient pour la protection aussi bien des populations que de l'environnement. Dans cette bataille, les partenaires au développement travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour sensibiliser les communautés au risque de glissement de terrain et mettre en place des mesures d'alerte précoce et d'évacuation en cas de besoin. La saison des pluies et les glissements de terrain constituent une triste réalité pour de nombreux Camerounais. Il est donc crucial pour les autorités et les organisations humanitaires de travailler ensemble pour prévenir de telles tragédies à l'avenir.
Dans la suite du journal, dans la capitale économique, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenaoundoua, a présidé ce jeudi l'atelier sur l'optimisation du potentiel de la ZELECAF en Afrique centrale. Les travaux de deux jours, initiés par le bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission économique pour l'Afrique, sont axés sur la promotion de l'inclusivité et de l'égalité des genres dans les chaînes de valeur. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a rappelé la symbolique de la rencontre de Douala, signe de l'engagement des pouvoirs publics à valoriser le rôle des femmes dans l'implémentation de la ZELECAF. Marie-Thérèse Abenaoundoua, au micro de Clovis Tchamabo.
Nous ne pouvons pas avancer si les femmes n'ont pas les mêmes opportunités que les hommes dans notre pays et dans notre continent africain. La femme se retrouve essentiellement dans le commerce informel. C'est pour ça qu'il est important de le rendre formel pour que sa participation soit visible. Et les gens vont dans les champs acheter à vil prix et vont transformer à l'extérieur. Ces produits nous reviennent déjà complètement transformés. Nous les achetons à prix d'or. Il faut donc que ce travail qu'elle a bas, qu'elle puisse aussi tirer profit. Et c'est pour ça qu'il est important que nous adhérions tous à la ZELECAF pour qu'on puisse circuler librement, ne serait-ce que dans notre sous-région Afrique centrale et pourquoi pas dans toute l'Afrique, pour qu'on puisse retrouver le produit transformé dans les normes.
Marie-Thérèse Abenaoundoua, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Le président du Forum des gouverneurs de la Commission du bassin du lac Tchad, par ailleurs gouverneur de province dans son pays, arrivé en fin de séjour dans la région du Nord. La visite de travail et rencontre d'échange a permis à l'hôte de la ville de Garoua d'échanger avec les autorités autour des éléments de sécurité liés à la crise de Boko Haram. 479 millions de francs CFA, c'est le montant arrêté et validé pour le compte de l'année 2024 du Limbe Nautical Art and Fisheries Institute. Résolution prise ce jeudi à Yaoundé à l'occasion de la 17e session ordinaire de son conseil de direction. La rencontre était présidée par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Plus de précisions avec Eta Collins Iyok, directeur de l'établissement. Il s'exprime au micro de Prisca Njeng Mongolo.
C'est une session de gestion de compte et c'est adopté. En termes de chiffres, l'engagement pour 2023 était 479 millions. Et c'est le même montant qu'on a engagé et validé, au taux de 86,17%. Maintenant, on parle du coût des post-obstructions. On devait essayer de voir comment on peut produire le poisson pour les Camerounais en termes d'aquaculture et en termes de la pêche de capture. Notre corps, c'est un centre d'excellence pour la pêche et l'aquaculture. Et c'est dans les sous-régions. Nous, on devait faire beaucoup de publicité pour encourager l'étranger à venir parce que c'est un corps de référence.
Autre volet de l'actualité en bref, délivrance des permis de conduire et de la carte grise. Tout se fera bientôt en ligne à travers la plateforme Trésor P, récemment lancée par le ministère des Finances. Un séminaire d'appropriation des nouvelles procédures de collecte des recettes non fiscales et de demande des titres de transport a eu lieu ce jeudi à Yaoundé, à l'attention des agents et responsables de la délégation régionale des transports du centre. À la manette, le directeur des transports routiers au ministère des Transports, Divine Mbamome Nkendon. Université de Yaoundé a un cap sur la modernisation des infrastructures, le recensement des personnels et la validation des nouvelles offres de formation. C'est ce qui ressort de l'état des lieux de cette université, présenté ce jeudi aux membres du conseil d'administration réunis autour du président professeur Maurice Tuenté, au terme des travaux qui s'étaient donnés au recteur Rémi Magloire et toi, de poursuivre les chantiers déjà engagés. L'université de Douala, elle, accueille ses nouveaux responsables. Ils étaient installés dans leurs fonctions par le recteur Magloire Ondoa, qui avait à ses côtés le président du conseil d'administration de l'université de Douala, Guillaume Ekambi Dibongué. Au promu, il était recommandé de continuer à œuvrer pour le rayonnement de cette institution universitaire. Et puis, ce communiqué final à l'issue de la 13e session ordinaire du conseil de direction de SUBTIC du 9 juillet 2024. L'an 2024 et le 9 du mois de juillet s'est tenu à 11h02 dans la salle C9 de l'École nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication de Yaoundé. La 13e session ordinaire du conseil de direction de cette école. C'était sous la présidence de Mbobda Emmanuel, président de séance du dit conseil, élu par ses pairs conformément à l'article 10 du décret du 26 octobre 2016 portant changement de dénomination, réorganisation de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Watching Félix, directeur de SUBTIC, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour de cette session, essentiellement consacrée à l'examen et à l'approbation des comptes de l'exercice budgétaire clos au 31 décembre 2023. Concernant les 10 comptes, le Conseil, après avoir suivi leur présentation et à l'issue de leur examen, a approuvé à l'unanimité le compte administratif et le compte de gestion de SUBTIC Yaoundé et du Centre régional de formation des postes des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication de Bouya, le rapport annuel du contrôleur financier spécialisé et le rapport annuel de performance de SUBTIC Yaoundé, le compte matière de SUBTIC Yaoundé. Au terme des travaux, le conseil a félicité le directeur et ses collaborateurs pour les efforts relevés dans la présentation des documents de compte, la pertinence de leur contenu et l'a encouragé à poursuivre ses efforts en vue d'améliorer davantage l'élaboration des 10 documents sous le format du budget programme. Le président de séance a clôturé la session à 14h34. Baccalauréat 2024, les résultats sont disponibles pour ce qui est des filières industrielles et commerciales. Lecture tout juste après ce journal sur cette antenne du poste national de la CRTV. Des admissibilités des baccalauréats A, F et F, admission des baccalauréats A et F, ainsi que du brevet de technicien industriel et du brevet professionnel industriel. Le ministre des Finances rappelle au public en application de la législation fiscale en vigueur, les timbres fiscaux sont exclusivement vendus par les débitants publics à travers les postes comptables ci-après. Les recettes des impôts, les régies des recettes du timbre, les trésoreries générales, les payeries spécialisées, les recettes des finances et les perceptions. Il invite par conséquent les usagers à être vigilants et à porter eux-mêmes les actes et documents à timbrer auprès des services sous-indiqués et d'éviter de les confier à des intermédiaires. Et rappelle enfin que la Direction générale des impôts a pris des dispositions utiles en vue de faciliter l'accès aux services du timbrage dans tous les points de vente et reste par ailleurs disponible pour toute réquisition aux fins d'authentification d'éventuels timbres sujets à caution. Tout en comptant sur le civisme fiscal de tous, le ministre des Finances précise que conformément à la réglementation en vigueur, les documents revêtus de faux timbres fiscaux seront systématiquement rejetées sans préjudice de poursuites pénales à l'encontre de leurs détenteurs. Sport en salle pour finir. La 12e session ordinaire du conseil de direction de l'Institut national de la jeunesse et des sports s'est tenue ce jour à Yaoundé. Il était question d'examiner et de voter les projets et les résolutions liées à la gestion financière de cet établissement. Didier Marius Etundi.
Les assises étaient conduites par le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Joseph Yirima, en lieu et place du président du conseil des directions Adoum Garoua, un huis clos de près de 4 heures de temps pour examiner les documents de gestion de l'année 2023, entre autres les comptes de gestion administratifs, gestion de matière et le rapport de performance de l'année académique 2022-2023 de l'INJS. D'autres résolutions majeures sont prises en rapport avec le personnel pour la bonne marche de l'Institut. Docteur Edbon Ebalmeye, directeur de l'INJS.
Nous avons pu, pour la carrière des enseignants, adopter un certain nombre de résolutions. Je crois que la feuille de route que nous nous sommes donnée ce matin a été bien remplie. Les prochains mois appellent l'évolution de l'INJS à travers l'implémentation de tout ce qui a été décidé aujourd'hui et la projection dans un certain nombre d'activités nouvelles qui font partie du plan d'action de l'INJS. On a encore quelques mois devant, il faut achever ce plan d'action.
Le conseil des directions a salué et féliciter le directeur de l'Institut pour la qualité des documents présentés.
À retenir de ce journal, une nouvelle cimenterie au Cameroun, Simpo Cameroun SA, sera inaugurée ce vendredi à Kribi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Hygiène et salubrité, une opération coup de poing annoncée à Yaoundé. Il s'agira en une semaine chrono de débarrasser la cité capitale de toutes ses ordures. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en appelle à la mobilisation de tous. 20h passées de 31 minutes, fin de ce journal. Technique Mathieu Benoun, réalisation Marie-Claire Messier Kobna, rédacteur en chef Simon Lyonga. Je suis Marie-Chantal Noah. Merci. Passons d'agréables moments avec la CRTV.